Docteur Robert Yarbrough, Épître pastorale, session 13. Titus 2. Symbole copyright 2024 Robert Yarbrough et Ted Hildebrandt. Il s'agit du docteur Robert Yarbrough et de son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique destinée aux dirigeants pastoraux et à leurs disciples. C'est la séance 13, titre 2. Nous continuons notre étude de Titus, et nous sommes au milieu du chapitre 1, et nous allons essayer d'aller jusqu'à la fin du chapitre 2 dans cette conférence. Lorsque nous regardons notre situation dans le chapitre 1 de Tite, nous voyons que nous sommes à un titre qui dit « Réprimander ceux qui ne font pas le bien ». J'ai déjà observé que les mots « bien » et « faire le bien » figurent en bonne place dans les titres de la NIV pour Titus, et nous verrons au fur et à mesure pourquoi. Je tiens à préciser que tout comme les divisions en chapitres et en versets ne font pas partie du texte grec original de Titus, les titres, je veux dire, sont corrects, mais le problème n'est pas seulement que les gens n'ont pas fait le bien. Le problème était lié à une mauvaise appropriation de l'évangile. Ce n'est pas comme si, eh bien, si vous parveniez simplement à amener les gens à faire le bien, alors tout irait bien, car il ne s'agit pas de la bonté humaine. Il s'agit de Dieu et de l'appropriation de la grâce de Dieu par la foi en Christ. Mais nous verrons pourquoi la NIV dit ici réprimander ceux qui ne parviennent pas à faire le bien dans cette section. Dans les versets précédents, Paul parle de la nécessité de nommer des dirigeants capables d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter ceux qui s'y opposent. Nous arrivons maintenant au verset 10. La raison pour laquelle je dis cela est qu'il y a beaucoup de gens rebelles, pleins de discours insensés et de tromperies, en particulier ceux du groupe de la circoncision. Bien sûr, il s'agirait de personnes juives ou de personnes ayant accepté l'opinion rejetée au Concile de Jérusalem selon laquelle pour être un chrétien en règle, pour être un disciple messianique, il faut suivre les traditions. Quand il s'agit de régime alimentaire et quand il s'agit de circoncision et d'autres coutumes qui ont été données au peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament comme marqueur de son identité en tant que son peuple. Paul dit qu'il faut les faire taire, ces gens rebelles et qui disent des bêtises. Ils doivent être réduits au silence parce qu'ils perturbent des foyers entiers en enseignant des choses qu'ils ne devraient pas enseigner, et cela dans un but de gain malhonnête. À l'époque, il n'y avait pas de télévision par satellite, mais si vous fouillez sur la télévision par satellite, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin et vous verrez des gens qui enseignent des choses et qui utilisent la Bible, et on dirait une église. Il y aura une chaire, et cela ressemble un peu au christianisme, mais une grande partie de l'appel concerne les contributions, et peut-être que cela clignotera sur l'écran, envoyez-nous de l'argent à cette adresse. Je ne dis pas que tout le monde sur les ondes est malhonnête, mais il y a eu beaucoup de reportages sur des gens possédant plusieurs jets et possédant de grandes propriétés et des gens qui se sont beaucoup enrichis grâce au langage évangélique et à l'héritage chrétien, et quand ce n'est pas scrupuleux, quand c'est sans scrupule, ce serait pour un gain malhonnête, et cela se produit partout dans le monde, et cela se produit à toutes sortes de niveaux. Cela se produit à des niveaux élevés, au niveau de l'élite et au niveau de la jet set. Cela se produit à des niveaux très, très courants. Chaque année, il y a un groupe de réflexion et un centre de recherche au séminaire Gordon-Conwell. Cela s'appelle le Centre pour l'étude du christianisme mondial et ils essaient de suivre les événements sur la scène chrétienne mondiale. Je pense que dans le numéro de janvier 2022 de leur mise à jour annuelle de leurs chiffres, l'un des chiffres qu'ils donnent est le montant d'argent donné aux missions étrangères dans l'Église, et je pense que c'est global, et ils tiennent compte de ce chiffre, et c'est resté constant au cours des 4 ou 5 dernières années, ils estiment ce chiffre à 60 milliards, donc 60 milliards, 62 milliards, à peu près autant d'argent est consacré chaque année aux missions à l'étranger, mais chaque année au cours des 4 ou 5 dernières années que j'ai suivi ces chiffres, il y a aussi un chiffre pour l'argent perdu à cause de la corruption, et ce chiffre tourne constamment autour de 66, 68, 69 milliards de dollars. Les églises perdent plus d'argent à cause des vols dans l'église que les églises du monde entier n'en donnent pour propager l'évangile dans d'autres régions. Ce n'est donc pas un problème nouveau. C'est un phénomène qui existe toujours parmi nous, et cela fait partie de ce qui se produit lorsque des gens pécheurs entrent ou se trouvent autour de l'église, et qu'il y a un flux de trésorerie. Vous ne pouvez pas avoir une église si vous n'avez pas de personnes qui contribuent aux objectifs du groupe, et c'est bien. C'est bien quand les gens sont généreux. C'est l'une des qualifications d'un leader. Il faut être généreux. Il faut être hospitalier. Cela prend des revenus, mais il y a alors des gens qui en jouent et les exploitent. Verset 12, l'un des propres prophètes de Crète l'a dit, « Les Crétois sont toujours des menteurs, des brutes maléfiques, des gloutons paresseux. » Le dicton est vrai. C'est pourquoi, dit-il, réprimandez-les sévèrement afin qu'ils soient saints dans la foi. Ces gens qui sont souvent à gauche dans leur vision doivent être ramenés au centre. Ils doivent avoir une foi saine et ne pas prêter attention aux mythes juifs ou aux simples commandements humains de ceux qui rejettent la vérité. Si nous revenons au ministère de Jésus, nous nous souvenons de la façon dont il regardait les gens dans son propre environnement. Je pense particulièrement au chapitre 7 de Marc. C'étaient les érudits chefs religieux de son époque. Jésus a cité Isaïe. Dans Isaïe 28, Dieu dit à Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils enseignent comme commandement divin les traditions des hommes. » C'est ce que Paul entend par mythes et commandements humains de ceux qui rejettent la vérité. Parfois, il y a de bonnes choses qui peuvent être commandées dans l'Église, mais elles ne sont pas essentielles à ce que dit la Bible. Par exemple, vous pourriez avoir une Église selon laquelle il y a une perception générale dans l'Église, dans la culture, que vous devriez vous habiller pour aller à l'Église. Ou bien, je suis dans une église en ce moment, et c'est une bonne église, mais là, c'est plutôt comme si tu devais t'habiller de manière décontractée. L'église est pleine de gens d'affaires, mais on ne voit jamais de lien dans l'église, parce que l'église a en quelque sorte un accord tacite. Au moins, je n'ai jamais entendu personne en parler, mais j'ai été surpris quand j'y suis allé parce que je savais que c'était plutôt dans une banlieue aisée, et je soupçonnais simplement qu'il y aurait beaucoup de gens assez riches ici, et je étais juste. Mais personne ne s'habille comme s'il allait au travail. Il ne porte pas de cravate. Il ne porte pas de manteau. Il ne porte pas de chemise blanche. Eh bien, ce n'est pas grave, mais c'est juste un accord humain. Je pense qu'ils ont des raisons religieuses. Je pense qu'ils veulent être une église communautaire qui accueille les gens qui ne font pas partie de l'église, et s'il entrait que tout le monde porte des costumes, ils diront, je ne veux pas être ici. Mais si tout le monde est en été, s'ils portent des shorts, des sandales et des chemises de golf, alors c'est confortable pour les gens. C'est donc une sorte de coutume défendable de l'église. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut dire, si vous voulez être chrétien, vous devez vous habiller de manière décontractée. Ou dans une église liturgique, il faut se déguiser. Mais ces choses arrivent notoirement. Peu importe où vous allez dans le monde, ce que font les gens est mis au même niveau que la doctrine de l'expiation, ou la doctrine des Écritures, ou la doctrine de Dieu. Et les gens pensent qu'être chrétien correspond à certaines coutumes. Parler d'une certaine manière, ne pas jurer, ne pas jouer à certains jeux, ne pas boire d'alcool. Si vous ne faites pas ces choses, c'est ce que signifie être un chrétien. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire, c'est ce que signifie être un chrétien. Arrêtez de boire de l'alcool, allez à l'église, habillez-vous bien. Voilà à quoi cela revient. Ce serait un ordre purement humain. Eh bien, ils avaient leurs propres commandements, simplement humains, et ils avaient leurs pratiques juives. Rappelez-vous, il a dit que c'était le groupe de circoncision. Ils avaient des mythes et des idées juives. Et c'était un rejet de la vérité de l'Évangile. Et cela posait des problèmes, car non seulement ils se trouvaient hors de leur base, mais ils essayaient également d'amener d'autres personnes à quitter leur base avec eux. Et bien sûr, si vous vous éloignez de ces directions, alors vous ne marchez plus vraiment en Christ. Vous ne marchez pas dans la foi. Vous marchez dans les enseignements et les coutumes humaines. Et la grâce sanctifiante de Dieu, alors cela ne marche pas, parce que vous ne vous attendez pas à sa grâce de Dieu. Vous vivez votre vie d'une manière qui, selon vous, glorifiera Dieu. Et quand vous commencez à vivre selon ce que vous pensez glorifier Dieu, et non selon ce que Dieu dit qui le glorifiera, tout est possible. Parce que nous allons dans de mauvaises directions sans la direction de Dieu. Au verset 15, Paul dit, « Pour les purs, tout est pur, mais pour ceux qui sont corrompus et ne croient pas, rien n'est pur. » En fait, leur esprit et leur conscience sont corrompus. Et puis, en parlant spécifiquement des personnes que Paul va dire à Tite, il doit corriger ces personnes. Et plus loin dans le chapitre 3, il dit que vous devrez peut-être même exclure certaines de ces personnes. Mais il dit à propos de ces gens et de leur direction, dit-il, qu'ils prétendent connaître Dieu, mais par leurs actions ils le nient. Et voici peut-être la première preuve explicite de la raison pour laquelle la NIV a tant de bons dans les titres, parce qu'un problème primordial dans les églises de Crète était qu'il y avait ces gens qui, par leurs actions, par leurs œuvres, par leurs actes, niaient Dieu. Ils prétendaient connaître Dieu, mais ils le niaient par leurs actions. Et puis Paul dit, ils sont détestables, ils sont désobéissants, ils ne sont pas aptes à faire quoi que ce soit de bien. Et j'ai le grec là-bas, et cela peut être traduit pour n'importe quel bon travail. Et vous pouvez voir ce mot au milieu, ergon, il ressemble à un petit e et il ressemble à un p, mais en grec, c'est une rangée, un r, donc c'est ergon, et le mot après signifie bien. Et au début, c'est ani ou ani, vous pouvez le traduire d'une manière ou d'une autre ici. Ainsi, vous obtenez ici un profil de ceux qui ne parviennent pas à faire le bien et pourquoi Tite, comme Paul le dit encore plus tôt, doit s'accrocher fermement au message digne de confiance tel qu'il a été enseigné afin qu'il puisse encourager les autres par la saine doctrine et réfuter ceux qui s'y opposent. Et il doit dire cela parce qu'il y en a beaucoup qui sont rebelles, pleins de discours insensés et de tromperies. Alors maintenant, nous avons besoin de dirigeants, et nous avons la raison pour laquelle nous avons besoin de ces dirigeants parce que nous avons la corruption qui est dans les coulisses et qui affecte l'Église. Eh bien, c'est un bon point, je pense, pour parler des œuvres de Titus et de leur importance centrale dans le livre. Et j'ai fait un tableau où sur le côté gauche vous avez les versets dans lesquels le mot ergon, travail, apparaît, que ce soit au singulier ou au pluriel, puis un commentaire sur cette occurrence. Nous avons donc déjà lu 1,16 sur le côté gauche. Mon commentaire est que la foi qui est confessée, et voilà, la foi qui est confessée doit s'aligner sur les actions. Ainsi, ils prétendent connaître Dieu, et ils prétendent connaître Dieu, mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La foi confessée doit s'aligner sur les actions. Et les œuvres que Dieu reconnaît comme bonnes sont une priorité élevée pour les croyants de l'Évangile. Donc, ce n'est pas seulement ce que nous disons, ce que nous pensons ou ce que nous disons croire, mais c'est la façon dont cela est vécu. Parce que la vérité de l'Évangile est si puissante que lorsque nous l'adoptons, j'aime dire que Dieu entre dans nos têtes. Vous aviez peut-être quelque chose en tête. Et si vous faites du sport, vous essayez parfois de vous mettre dans la tête de l'autre lanceur ou de quelqu'un de l'autre équipe. Si vous parvenez à les distraire et à les détourner de leur concentration, vous pouvez alors modifier leur comportement. Vous changez leur façon de jouer. Et lorsque nous traversons la vie seule, que nous vivons notre propre vie, peut-être en repensant à l'époque où nous n'étions pas chrétiens, nous pouvons faire des choses assez folles. Mais si Dieu entre dans votre tête, si l'évangile de Jésus-Christ vient à vous, si vous croyez au Christ qui est mort pour vous, vous êtes convaincu de vos péchés, vous réalisez que vous êtes digne d'être jugé devant Dieu, et vous réalisez que Christ est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour votre salut. Et il vous appelle à croire en lui pour le pardon et pour une nouvelle vie à son service. Quand cela vous frappe, alors il est dans votre tête et cela ne vous laisse pas tranquille. Vous pouvez essayer de vous en détourner. Vous allez pécher contre Dieu, mais Dieu vous convainc, et Dieu vous ramène, et vous grandissez en grâce, et vous grandissez dans la connaissance de Dieu. Et le résultat est que votre comportement change, et vos habitudes de dépenses changent, vos habitudes de parole changent, vos lectures changent. De nombreux changements se produisent dans nos vies à mesure que nous changeons notre vie du service de nous-mêmes au service de Dieu de la même manière que notre vie de disciple de Christ à Christ change notre vie. Ma femme et moi, quand nous étions très jeunes, avions de grands projets d'un avenir glorieux dans l'ouest du Montana. Je travaillais dans l'ouest du Montana, et ma femme a d'abord suivi une formation d'infirmière dans l'ouest du Montana, puis elle est devenue infirmière. Mais nous étions impliqués dans une église, nous avons commencé à grandir en tant que chrétiens. Après 4 ans dans les bois, j'ai réalisé que je devais vraiment arrêter l'exploitation forestière et suivre une formation biblique afin de pouvoir devenir un meilleur chrétien, car je ne connaissais rien de la Bible. Donc, j'ai terminé mes études universitaires, puis j'ai pris du retard et j'ai pensé, eh bien, maintenant, je peux avoir ma vision. Je peux être bûcheron. Je peux implanter des églises. Je peux prêcher. Et ce sera un grand avenir. Mais ce n'était pas l'avenir de Dieu, et il ne voulait pas nous laisser tranquilles. Et donc, j'ai dû quitter l'exploitation forestière dans le Montana, et je suis heureux chaque fois que je peux retourner au Montana. Mais j'enseigne depuis 37 ans, 38 ans, et c'était après 5 ans d'absence de formation continue, de formation de maîtrise pendant 5 ans avant de pouvoir commencer à enseigner. Donc, ma vie ne s'est pas du tout déroulée comme je l'espérais. J'ai dû faire beaucoup de travail et travailler dans des domaines qui, à l'époque où j'étais forestier, ne m'intéressaient absolument pas. En fait, je dirais toujours que je ne pourrais jamais survivre dans un travail de bureau. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit dans nos vies. C'est quelque chose qui fait simplement partie de notre composition, ce qui revient pratiquement à vivre dehors. Dieu dit, eh, c'est génial, mais je me rattraperai au paradis. Mais tant que tu es sur cette terre, j'ai d'autres endroits où j'ai besoin que tu sois. Il est hautement prioritaire que nous vivions notre vie en phase avec la foi que nous disons avoir. Si nous faisons vraiment confiance à Dieu, alors tout est sur la table. Tout dans nos vies est sur la table pour que Dieu puisse le réorganiser comme bon lui semble. Que vous parliez de votre vie morale, de votre vie intérieure, de votre vie extérieure, de votre vie professionnelle, de votre vie relationnelle, de tout, il est le Seigneur. Il est le Seigneur de tous. Et vous ne pouvez pas simplement le satisfaire avec quelques belles paroles et quelques actes religieux. En 2 à 7, on va lire, et tout leur donne l'exemple en faisant le bien. Et le commentaire ici s'adresse à Titus. En tant que chef d'église, Titus doit donner l'exemple d'être riche en bonnes œuvres devant le peuple. Et vous allez voir dans tous les cas dans la NIV, le grec dit bon travail ou bonnes œuvres, et la NIV a décidé de dire quelque chose de bon ou ce qui est bien. Et ça va. Mais faire ce qui est bien et accomplir de bonnes œuvres, ce qui est bien est plutôt nébuleux. Ce n'est pas vraiment clair. Faire ce qui est bien. Bon travail, je pense que c'est beaucoup plus clair. Nous parlons de choses que la Bible commande parce que la Bible est pleine de commandements. Et Jésus dit, si tu m'aimes, tu feras ce que je commande. Et c'est une bonne chose de connaître les commandements du Seigneur afin que dans notre relation avec lui, nous ayons une certaine direction dans ce qui lui plaît. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter décennie après décennie. Je me demande ce que ferait Dieu. Je me demande ce que je dois faire, je veux faire ce qui est bien. Je me demande ce que c'est. Le rabbin a déclaré qu'il y avait 613 commandements dans l'Ancien Testament. Il y a des centaines de commandements dans le Nouveau Testament. Et nous ne sommes pas sauvés par les commandes. Mais les commandements sont une grande miséricorde car en lisant la Bible, nous avons une idée de ce que signifie plaire à Dieu. Et si nous connaissons Dieu, nous voulons lui plaire, au moins dans nos bonnes heures et nos bons jours. Nous pouvons aussi être rebelles. Mais notre modèle est que nous voulons plaire, nous voulons grandir pour plaire à Dieu. Et les commandes nous permettent de le faire en partie. Nous allons au-delà des commandements, mais les commandements nous donnent la direction dans laquelle nous devons aller. Le Christ s'est donné pour nous racheter de toute méchanceté et pour purifier pour lui un peuple qui lui appartient, avide de faire le bien. L'intention du Christ en mourant. Il est mort sur la croix en partie pour créer un peuple zélé pour accomplir de bonnes œuvres. C'est très, très explicite, le lien entre la croix et les bonnes œuvres. Donc, pour revenir à la crête, si les gens disent, s'ils professent Christ, mais par leurs actes, ils le nient, c'est un sérieux décalage. Ce n'est pas seulement une vision différente du christianisme. C'est un point de vue différent. Ce n'est pas le christianisme. Le Christ est mort pour se purifier un peuple qui est le sien. Appartenir à Christ, c'est vivre une vie très productive et très fructueuse en faisant de bonnes choses. Lorsque vous arrivez au chapitre 3, rappelez aux gens d'être soumis aux dirigeants et aux autorités, d'être obéissants et d'être prêts à faire tout ce qui est bon. Le zèle pour toute bonne œuvre devrait être une caractéristique des chrétiens. On voit ici que les actions se situent dans le domaine social, dans le domaine politique. Rappelez aux gens d'être soumis aux dirigeants et aux autorités dans votre vie civique. Soyez obéissants à Dieu et aux autorités que Dieu a désignées et soyez zélés pour tout ce qui est bon. Il nous a sauvés non pas à cause des bonnes choses que nous avions faites, et en grec, ce n'est pas à cause de bonnes œuvres, mais sur la base de sa grâce. Nous avons lu ce verset plus tôt. C'est un dicton digne de confiance, et puis ça continue. Je veux que vous insistiez sur ces choses afin que ceux qui ont fait confiance en Dieu prennent soin de se consacrer à faire le bien. Ces choses sont excellentes et profitables à tous. Mon commentaire est que Paul accorde une grande priorité au fait que les chrétiens passent de la profession de foi aux bonnes œuvres qui incarnent et expriment cette foi. Il y a un gain et un effet rédempteur d'un tel service. Ces choses sont excellentes et profitent à tout le monde. Il n'est pas dédaigneux de faire de bonnes œuvres si vous les faites avec la bonne intention. Cela profite aux autres et c'est une expression de l'amour de Dieu. Une expression de l'amour de Dieu est la façon dont il profite à tant de personnes de tant de manières. Eh bien, son peuple devrait être des gens qui profitent aux autres d'une autre manière par les œuvres qu'ils accomplissent, même si les œuvres sont des œuvres. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas faire de bonnes œuvres parce qu'ils préfèrent, s'ils doivent déployer des efforts, les dépenser pour eux-mêmes. Quoi, tu penses que nous sommes une bande de serviteurs que nous sommes censés être comme au service des autres? Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. À partir des apôtres, les apôtres sont des serviteurs. Certes, le peuple de Dieu est serviteur de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin que le peuple de Dieu soit zélé pour les bonnes œuvres qui expriment sa confiance en Dieu, qui donne gratuitement à tous. Et enfin, une dernière mention. C'est vraiment remarquable, aussi petit que soit Titus, de voir comment Paul insiste sur ce point. Et je pense que c'est un indice du désarroi de la société crétoise et de l'importance pour Titus et les dirigeants chrétiens de s'opposer à cela et d'insister sur une appropriation pleine et véritable de l'Évangile et sur la foi en l'Évangile qui fait vraiment changer des vies et ne se contente pas de tapoter les gens sur la tête et de leur dire « Ne vous inquiétez pas, Dieu vous pardonnera. Croyez simplement en Jésus. » C'est très important. C'est très vrai. Mais si cela ne transforme pas la vie, alors Jésus ne fait pas grand-chose. Comme nous l'avons vu dans ce verset précédent, très important, il s'est donné pour nous racheter de toute méchanceté et pour purifier pour lui un peuple qui est le sien, désireux de faire le bien. Vous voyez, il y a cette ligne directe qui va de la croix à la purification. Et une fois que les saletés ont été éliminées de nos vies, nous pouvons désormais être les réceptacles d'un esprit de Dieu qui porte du fruit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la fidélité et de la maîtrise de soi. Une vie comme celle-là sera riche en faisant des choses pour Dieu et pour les autres. Et c'est ce que Titus est censé promouvoir. Un objectif central de la foi et de la vie chrétienne réside dans les bonnes œuvres, dans leur expression pratique et leurs résultats. Le verset est que notre peuple doit apprendre à se consacrer à faire ce qui est bon afin de pouvoir subvenir aux besoins urgents, et bien sûr, ce seront les besoins des autres, et non pas vivre une vie improductive. Que dirait Paul des gens qui vont juste à l'église le dimanche et qui vivent ensuite le reste de la semaine comme tout le monde dans le quartier? C'est un syndrome très courant dans les églises, du moins en Occident. Pour résumer, dans Tite 1.16, Paul souligne que les œuvres en question ne louent pas ceux qui les exécutent. Ils constituent un déni de Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais par leurs actes ils le renient. Jésus a dit que tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne l'appellent pas Seigneur. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Le problème de la confession erronée de celui qui prétend connaître Dieu mais ne fait pas ce qu'il commande revient tout au long de l'histoire biblique. Juste pour prendre un exemple, si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, vous verrez Saül, le roi Saül, et on lui a dit de faire certaines choses, et il fait certaines choses pour se satisfaire. D'accord, j'ai fait ces choses. Et puis le prophète Samuel arrive, et il dit, vous n'avez pas du tout fait ces choses. Et puis il lui dit, obéir vaut mieux que se sacrifier. Il a sacrifié un tas d'animaux, un peu comme ce que Dieu a dit, pas vraiment ce que Dieu a dit, mais assez pour dire, et, j'ai sacrifié. Et Samuel dit que lorsque Dieu vous commande quelque chose, Dieu est un être vivant. Vous savez ce qu'il voulait dire, et vous savez que vous avez mis un astérisque, vous avez en quelque sorte fait ce que vous vouliez, mais vous avez fait assez de ce qu'il voulait pour vous satisfaire, et, Dieu, n'est-ce pas suffisant? Et ce genre de religiosité calculatrice, nous le trouvons tout au long de la Bible. Il n'est donc pas surprenant que nous le voyions en Crète. Et je cite quelques commentateurs. On dit que la saine doctrine n'est pas simplement une profession propositionnelle, mais une conviction qui éclaire l'esprit afin qu'il puisse devenir opérationnel dans un comportement vertueux. Un autre commentateur dit, Paul comprend que la proclamation orthodoxe sans orthopraxie, l'orthopraxie est la bonne pratique, qui se moque de la foi que nous proclamons. Donc, je pense que nous voyons le problème. Je pense que nous voyons le défi. Et c'est pour l'Évangile qu'il change la façon dont les gens vivent. Et maintenant, en nous tournant vers la congrégation en disant à Titus, pour contrecarrer cela, ce qui doit se produire, c'est que certaines choses doivent être renforcées au sein de la congrégation. Et il dit, vous devez cependant enseigner ce qui est approprié à la saine doctrine. Et en rouge, il faut enseigner, c'est un impératif. Même si c'est très intéressant, il utilise un verbe, qui sert juste à parler. Et si vous regardez dans un lexique grec, ou si vous regardez dans le reste du Nouveau Testament, lorsque ce verbe est traduit, il n'est jamais traduit par enseigner. Et donc ici, vraiment, je pense que même si le discours de Titus va inclure son enseignement, je pense que le mot signifie en fait simplement, Titus, où que vous alliez et quel que soit votre mode de communication, dites ce qui est approprié à la saine doctrine. Ainsi, l'enseignement donne l'impression qu'il est formel et limité, mais je pense que le grec nous encourage à penser uniquement en termes de communication verbale formelle et informelle de Titus. Tout ce qu'il fait doit être conforme à la saine doctrine. Parce que vous voyez, s'il fait cela, alors il n'est pas un hypocrite. Si vous avez un problème avec les gens qui disent une chose, ils professent une chose, mais ils en font une autre, et alors vous professez quelque chose, mais ce n'est que votre enseignement. Ce n'est pas forcément ce qu'on dit partout. Vous pourriez être coupable de la même chose qu'eux. C'est pourquoi je pense qu'il ne dit pas d'enseigner. Il y a beaucoup de verbes qu'il aurait pu utiliser pour dire enseigner. Il dit, quoi que vous disiez, que cela soit approprié et cohérent avec un enseignement solide. Les hommes plus âgés, et le verbe, nous continuons à lire professeur, mais le mot n'apparaît pas en grec. C'est juste que cela est compris par l'enseignement du premier verset. Il est simplement dit que les hommes âgés doivent être sobres. Parler de manière à ce que les hommes plus âgés soient sobres. Cela signifie qu'ils ne sont pas vraiment chauds. Ils n'ont pas vraiment froid. Ils sont stables. Ils ne sont pas volatiles. Ils sont dignes de respect. Ils sont autonomes. Ils sont solides en foi, en amour et en endurance. Ils grandissent en maturité et demeurent dans cette stabilité qui caractérise de nombreux serviteurs expérimentés du Christ. De même, apprenez aux femmes âgées à être respectueuses dans leur façon de vivre. Ma mère a environ 90 ans et l'une des choses qu'elle me dit depuis de nombreuses années, c'est qu'en vieillissant, on devient invisible. Les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à vous et lorsqu'ils le font, ils peuvent utiliser des mots comme cher ou amour. Ils parleront presque comme s'ils parlaient à un chien. Ils condescendent en quelque sorte à parler à cette personne âgée, et surtout ma mère dit aux femmes plus âgées. Les femmes âgées sont en quelque sorte marginalisées, et elle a probablement raison, mais dans la Bible, les femmes âgées ne sont pas marginalisées. En fait, nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 5 comment Paul, qui est souvent accusé d'être misogyne, ne se soucie pas des femmes ou n'aime pas les femmes, il passe plus de temps à parler des soins aux vieilles dames de 60 ans ou plus. Il passe plus de temps à parler des soins apportés aux vieilles dames qu'à quoi que ce soit dans le livre 1 Timothée. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui déteste les femmes. Ainsi, la formation de disciples de femmes âgées est essentielle à la santé de toute église. Apprenez aux femmes âgées à être respectueuses dans leur façon de vivre, à ne pas être calomnieuses, à ne pas parler contre les gens ou à ne pas s'adonner à beaucoup de vin. C'est une partie du monde où le vin fait partie de la culture et où les gens peuvent facilement en abuser. Ne soyez pas cette personne, mais enseignez ce qui est bon. Ensuite, ils peuvent exhorter les jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se maîtriser et à être pures, et à s'occuper à la maison. J'y reviendrai plus tard, c'est pour cela que c'est souligné. Être gentille, être soumise à son mari, afin que personne ne calomnie la parole de Dieu. Ce n'est pas la seule raison. Il ne s'agit pas seulement de jouer les apparences pour que personne ne calomnie la parole de Dieu. Il y a une bénédiction intrinsèque à vivre une vie pieuse. Il y a un grand avantage pour une femme, un mari ou un enfant qui vit dans un foyer chrétien et qui vit dans une communion chrétienne. C'est une meilleure façon de vivre qualitativement. Il est bien préférable de vivre en communion avec Dieu, au service de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans la repentance envers Dieu, et en apprenant de Dieu, et en apprenant en communion avec les autres, y compris votre mère, votre femme, votre sœur et votre frère, quiconque est dans ta maison. Mais cela dit, il est également vrai que si vous vivez de cette façon en tant que chrétien, si vous vivez une bonne vie chrétienne, vous n'allez pas ressembler à un hypocrite aux yeux des gens extérieurs à l'Église. L'objectif de toute Église est de grandir, et il est difficile pour une Église de grandir si elle est pleine d'hypocrites, si elle est pleine de gens qui ont une identité d'Église, mais alors leurs familles sont en ruine. Encore une fois, comme je l'ai dit, il est courant que les gens vont à l'église et vivent ensuite leur vie comme tout le monde. Il est courant que les gens soient présents et membres d'une église, mais ils n'ont pas vraiment de foyer chrétien. Vous pouvez grandir dans un chrétien, vous pouvez grandir dans une maison et aller à l'église tout le temps, et vos parents peuvent être des officiers de l'église, mais vous ne pouvez jamais prier à la maison en dehors peut-être d'une prière pendant un repas. Ou vous pouvez être un homme qui va à l'église et vos enfants grandissent et ils ne vous ont jamais vu lire la Bible à la maison. Ou bien ta mère pensait qu'elle n'avait jamais prié avec toi. Je veux dire, c'est pour ça qu'il t'emmène à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Non, mais il est très courant que les gens mènent une vie non chrétienne même s'ils sont dans l'église. Cela amènera les gens à calomnier la parole de Dieu. Parce qu'ils diront, attendez, cette personne va dans cette église, que fait-elle ici, vivant comme tout le monde, faisant ce que tout le monde fait. Nous grandissons tous dans des contextes différents, mais c'est exactement ce avec quoi j'ai grandi. Il y avait des gens qui étaient catholiques, et des gens qui étaient baptistes, et des gens qui étaient presbytériens, et des gens qui étaient méthodistes. Mais tout le monde se droguait, tout le monde dormait, et tout le monde vivait exactement comme la culture de l'époque, même si la plupart des enfants allaient à l'église. Mais l'église n'a pas affecté leur vie pratique. Et au moins les gens que je connaissais, c'était aussi comme ça qu'était leur maison. Ils étaient fidèles à l'église jusqu'à aller à l'église, mais leur mère et leur père vivaient comme n'importe quelle autre mère et leur père. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, changeons cela. Eh bien, cela commence par les individus, et c'est là le génie de ce chapitre. C'est le génie de ce chapitre, c'est que Paul sait qu'on ne peut pas simplement agiter une baguette et changer un groupe de personnes. Cela demande un dur travail de disciples. Jésus ne s'est pas tenu sur une haute montagne et s'est contenté d'annoncer des choses. Jésus vivait côte à côte avec les gens, et ils auraient vu comment ils se comportaient. Ils auraient en quelque sorte absorbé ses méthodes et son ton, et il a transformé les gens par l'interaction personnelle. On pourrait dire par force de caractère. Son enseignement était renforcé par sa présence personnelle. Et nous avons l'Esprit de Jésus-Christ dans ce que nous appelons le Saint-Esprit, et nous avons les Saintes Écritures qui nous sont données que nous pouvons mettre dans nos esprits et intérioriser dans nos cœurs, et le Saint-Esprit peut rendre cela fructueux. Et en vivant côte à côte, nous pouvons grandir et ressembler davantage à Christ. Mais de nous dont je parle ici, je suis un vieil homme, mais vous pouvez être une vieille femme, ou vous pouvez être une jeune femme, ou jeune ou plus jeune, ou plus âgée. Mais où que l'on se situe sur l'échelle démographique, c'est la clé du renouveau de l'Église. Le renouveau ne se produit pas simplement en répandant de la poussière ou de l'encens et maintenant tout le monde est renouvelé. Il faut que les individus soient en accord avec Dieu. Or, les individus qui s'entendent bien avec Dieu peuvent en quelque sorte être contagieux, tout comme tirer au basketball ou frapper au baseball, quelqu'un devient chaud, puis tout le monde est chaud. Et ainsi, vous pouvez avoir des saisons de renouveau où beaucoup de gens, pourrait-on dire, prennent feu. Mais s'ils prennent vraiment feu, c'est aussi individuel et personnel. Vous ne pouvez pas prendre feu pour quelqu'un d'autre. Les églises sont pleines de gens qui font partie de mouvements où quelqu'un a pris feu, et ils ont compris, mais rien ne leur est vraiment arrivé. Dans le travail pastoral, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient partie d'un réveil, mais qui allaient de l'avant, par exemple, parce que tous leurs amis le faisaient. Et ils ne voulaient pas être laissés de côté. Et ils s'en vont, je me demande de quoi il s'agit. Et ils se sentaient mal à l'aise, mais c'était une affaire de père. Et il y a des pères qui vont à l'église parce que c'est une affaire de père. Les femmes font pression, ma chère, iras-tu à l'église? Et ils y vont, mais cela ne change pas vraiment leur vie. Cela change simplement leur comportement. Et ils y vont, peut-être qu'ils se font baptiser. Je veux dire, tout ça a l'air vraiment bien. Mais on dit ici à Titus, dans son discours et dans son ministère, de se concentrer sur les groupes démographiques. Et dans ce cas, par l'intermédiaire des femmes plus âgées, les plus jeunes peuvent être influencés dans une direction divine. Remarquez comment on enseigne aux femmes plus âgées afin qu'elles puissent encourager les femmes plus jeunes. C'est pourquoi il est si important d'avoir des femmes qui ont une formation théologique et des femmes qui sont des disciples, comme nous l'avons vu dans 1 Timothée 2. Et des femmes qui ne se soucient pas seulement des choses des femmes, mais qui se soucient des choses de Dieu parce qu'il y a tellement de choses à faire. Peu de choses que les pasteurs masculins peuvent faire directement pour le nombre de femmes plus jeunes et aussi pour la démographie des femmes plus jeunes. Je veux dire, il y a certaines choses que vous pouvez faire en groupe, mais nous avons tout besoin d'une attention individuelle. Les pasteurs n'ont pas le temps, et il n'est pas approprié qu'ils accordent beaucoup d'attention individuelle à un grand nombre de jeunes femmes. Mais les femmes âgées, dans leur ensemble, ont souvent une grande contribution à apporter. Si vous prenez une douzaine de femmes âgées dans une église de taille moyenne qui sont là depuis longtemps et qu'elles connaissent d'autres personnes dans l'église, elles connaissent beaucoup de femmes plus jeunes. Ils peuvent être une force immense pour l'enseignement théologique en apportant une aide pratique, un soutien dans la prière, ainsi qu'un exemple et un encouragement de toutes sortes de manières. Ils peuvent côtoyer des femmes plus jeunes et les aider à cheminer vers la piété. De même, le verset 6 encourage les jeunes gens à se maîtriser en toutes choses. Donnez-leur l'exemple en faisant ce qui est bon dans votre enseignement. Faites preuve d'intégrité, de sérieux et de justesse de parole qui ne peut être condamnée, afin que ceux qui s'opposent à nous, ou, excusez-moi, s'opposent à vous, aient honte parce qu'ils n'ont rien de mal à dire sur nous. Donc, nous avons couvert les hommes plus âgés, nous avons couvert les femmes plus âgées, nous avons couvert les femmes plus jeunes, nous avons couvert les hommes plus jeunes, puis ils passent aux esclaves. Apprenez aux esclaves à être soumis à leur maître en tout, à essayer de leur plaire, non pas à leur répondre, à ne pas leur voler, mais à montrer qu'on peut leur faire entièrement confiance afin qu'ils fassent de toutes les manières l'enseignement sur Dieu notre Sauveur attrayant. Je n'en dirai pas plus sur les esclaves ici parce que j'en ai parlé à propos des esclaves dans 1 Timothée 5 et 6. Maintenant, tout ce qu'il dit dans les versets 1 à 10 a une base, et la base vient au verset 11 et suivant. Car la grâce de Dieu est apparue. Le Christ est venu. La grâce de Dieu est apparue et offre le salut à tous. Maintenant, la façon dont je comprends ce verset parce que ce mot salut en grec est un adjectif, c'est un neutre, excusez-moi, c'est un adjectif féminin. Ce n'est pas un adjectif neutre. Cet adjectif signifie parfois salut, mais normalement il y a un article devant lui, il n'y a pas d'article ici. Et aussi, comme c'est féminin, il cherche quelque chose de féminin à modifier. Et donc, je pense que cela modifie la grâce. Parfois, Paul utilise un mot inhabituel ou bouleverse ce qu'il dit, et je pense qu'il dit, car la grâce de Dieu est apparue, c'est-à-dire la grâce salvatrice de Dieu, et elle est apparue à tous. La grâce salvatrice de Dieu est apparue à tous. Et je dis cela simplement parce que certaines traductions donnent presque l'impression que tout le monde est sauvé. Mais certainement, Paul ne le croyait pas, et je ne pense pas que la grammaire du verset nous encourage même à le traduire de cette façon. Ainsi, car la grâce salvatrice de Dieu est apparue à tous. Cela nous apprend à dire non à l'impiété et aux passions du monde. Ce mot enseigne qu'il y a le mot tédéo, qui nous discipline, comme un enfant est discipliné, un enfant est nourri. La grâce de Dieu nous nourrit, et puis la traduction est assez vivante, dire non, nous apprend à nier l'impiété et les passions du monde, et à vivre une vie maîtrisée, droite et pieuse dans ce siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous racheter de toute méchanceté et pour purifier pour lui un peuple qui lui appartient, désireux de faire de bonnes œuvres. Désireux, dit la traduction, de faire le bien. Ainsi, les versets 1 à 10 sont merveilleux, ils sont pratiques, ils sont orientés démographiquement, ils sont stratégiquement judicieux, nous devons être pédagogiquement efficaces avec les groupes d'âge, les sexes et les groupes de personnes. Dans ce cas, il distingue les esclaves, mais ce mot du verset 11, 4, nous rappelle toutes les œuvres ci-dessus, et tout ce qui précède est d'une haute priorité à cause de la grâce de Dieu. Si vous supprimez la fondation, alors tout ce que vous avez, c'est Titus et les gens qu'ils forment, et ils essaient de modifier leur comportement. Ils essaient de conditionner le comportement des gens et de les amener à vivre différemment. Mais ce dont Paul parle, c'est de la transformation qu'apporte la grâce parce qu'elle nous instruit. Il y a un couplet dans la chanson Amazing Grace de John Newton, c'est la grâce qui a appris à mon cœur à craindre et la grâce qui a soulagé mes peurs. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où j'ai cru pour la première fois, parce qu'il était un marchand d'esclaves, John Newton l'était. Il était le plus méchant des méchants, et la grâce lui a appris quelque chose qui a totalement changé sa vie et qui a changé la vie de millions de personnes en conséquence parce qu'il faisait partie du mouvement contre l'esclavage dans l'Empire britannique, qui était si méchant et avait une telle influence. Cela a eu un effet terrible sur les États-Unis, lorsque les esclaves ont commencé à être amenés ici, nous n'étions plus les États-Unis, nous étions des colonies. Et les puissances coloniales asservissaient les gens et les envoyaient partout. C'était une chose terrible. Mais la grâce est ce qui permet aux hommes et aux femmes plus âgés, aux hommes et aux femmes plus jeunes, de réaliser toutes bonnes choses dans le corps de Christ. C'est à travers le ministère du Christ et la parole que Paul utilise qui englobe en quelque sorte toute la gamme de la miséricorde de Dieu et du don de Dieu à son peuple et du pardon de Dieu à son peuple et de l'équipement de Dieu à son peuple et de l'encouragement de Dieu à son peuple, tout ce que vous voulez dire, c'est la grâce. Et ce n'est pas par les œuvres, qui sont si critiques chez Tite, mais ce n'est pas par les œuvres que nous obtenons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient et elle nous instruit. C'est comme si un bon parent façonnait et instruisait un enfant, par la prière, par des ordres, parfois par des punitions, des mesures dissuasives, et surtout par l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup plus en observant ce que nous faisons et en imitant à leur manière la façon dont nous le faisons. C'est la principale façon dont ils apprennent. Tout cela dans un contexte de grâce. Et il a donné, Christ s'est donné pour nous racheter afin que nous soyons un peuple désireux de faire le bien. Donc, pour résumer, voilà donc les choses que vous devriez dire, vous devriez parler. Encouragez et réprimandez avec toute autorité. Ne laissez personne vous mépriser. Ne laissez personne vous mépriser et ne soyez pas intimidé parce que les gens vous regardent de travers parce que vous essayez de mettre de l'ordre dans une situation où les ménages sont bouleversés. Souvenez-vous du premier chapitre, ces gens bouleversant des ménages entiers. Ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Ils conseillent les gens d'une manière qui les éloigne de l'évangile, de la pureté, de la puissance et de la bonté de la présence de Dieu dans le cœur des gens et dans la congrégation de Dieu. Ce sont donc des mots énormes et il ne sera pas facile pour Titus de s'arrêter et de dire, nous devons avoir un esprit différent ici. Nous devons réaffirmer comment tout a commencé. Tout a commencé avec la grâce de Dieu dans l'évangile du Christ. Et maintenant, nous avons des gens qui s'éloignent en quelque sorte dans des directions malsaines. Les gens ne vont pas aimer ça. Les gens n'aiment pas le changement. Et s'ils s'établissent, ou peut-être eux, certaines personnes entrent dans l'Église et n'entrent jamais vraiment dans l'Église. Et quand quelqu'un les dénonce ou les confronte, ils se mettent très, très en colère. Je me souviens que j'avais un ami il y a des années et qu'il avait grandi dans une tradition religieuse qui, il y a déjà de nombreuses années, avait décidé que toutes les expressions sexuelles étaient bonnes si l'on était aimant. À l'époque, cela s'appelait l'éthique de situation. Donc, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec lui si vous êtes sincère. Et mon ami et moi, à ce moment-là, nous en parlions. Et j'ai dit, je ne pense pas que ce soit ce que dit la Bible. Et il était très, très en colère. L'une des raisons pour lesquelles il était en colère est qu'il avait grandi en tant que chrétien dans une église qui enseignait que ce que la Bible dit à propos de notre genre et de notre sexualité n'est pas vrai, c'est simplement culturel. Et nous avons une culture différente maintenant. Donc, je pourrais dire, mon ami me méprisait. Il m'a en quelque sorte viré de son appartement. Il n'aimait pas ça. Et je me sentais vraiment très mal. Et je suis heureux de le dire finalement, et c'était un grand miracle de ma part parce que, je connaissais mon ami et je pensais, eh bien, il fait partie de ces personnes qui ne deviendront jamais chrétiens parce qu'il a juste une telle conviction profonde dans l'autre sens. Et il vit une vie très différente. Et j'ai été étonné que quelques mois plus tard, il parvienne à croire en Christ. Et il est devenu un alligator et a été très impliqué dans le ministère. Et à ce jour, il est un leader d'église laïque très fidèle. Il a suivi une thérapie physique. Il n'est pas devenu ministre. Mais il a été un témoin très efficace toute sa vie. Mais il a cessé de mépriser la personne qui vient de dire, « Eh bien, je pense que la Bible dit cela. Sors d'ici. » Parfois, il n'en faut pas beaucoup pour que les gens se mettent très en colère si vous les confrontez à la vérité de Dieu. Mais c'est ce que Titus doit faire. Et c'est ce que les dirigeants qu'il nommera devront être prêts à faire. Ils seront capables d'enseigner et de réfuter ceux dont l'enseignement n'est pas solide. Et ce n'est pas amusant. Si vous n'aimez pas les conflits, alors Dieu vous appelle au ministère, alors vous avez juste besoin d'une grâce supplémentaire. Je ne dis pas de ne pas vous lancer dans le ministère parce que Dieu appelle toutes sortes de personnes au ministère. Et parfois, nous n'aimons pas les conflits. Et parfois, nous regardons et disons, « Eh bien, je ne peux vraiment pas faire ça. » Et tu as tout à fait raison. Mais Dieu peut vous rendre capable de faire des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire et que vous ne voulez certainement pas faire. C'est ainsi que fonctionne la Seigneurie de Dieu. Et c'est une chose glorieuse. La grâce de Dieu est une bonne chose, du moins avec le recul. Parfois, nous n'avons pas l'impression que ce soit si bon de regarder vers l'avenir. Terminons ce verset en examinant rapidement cette maison occupée. Les femmes plus âgées doivent apprendre aux femmes plus jeunes à être occupées à la maison. C'est la NIV et la Nouvelle Bible anglaise de Tite 2, 5. ESV dit travailler à domicile. Le CSB affirme que les travailleurs sont chez eux. RSV, domestique. CEV, est une bonne femme au foyer. Le NRSV, cependant, capture le mieux la nuance du mot. Le mot grec est oikourgos. Et ils le traduisent, bon chef de famille. Ce sens vient de l'utilisation du verbe apparenté par Clément d'Alexandrie. Oikourgos est un substantif. Et le verbe apparenté est oikourgo. Clément de Rome utilisait ce mot lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. Et il a dit que vous aviez demandé aux jeunes d'avoir des pensées modérées et appropriées. Tu as chargé les femmes d'accomplir tous leurs devoirs avec une conscience pure et respectueuse, irréprochable, en chérissant leur propre mari comme il se doit. Et tu leur as appris à respecter la règle de l'obéissance et à gérer les affaires de leur maison avec dignité et en toute discrétion. Et nous avons déjà vu ailleurs sur la gestion du ménage et que c'est une des responsabilités des épouses. Or, certes, on ne peut pas réussir sans travailler assidûment. Je ne suis donc pas contre l'idée d'être occupé à la maison ou de travailler à la maison. Mais ce que je veux souligner, c'est que Paul ne confine pas les femmes au travail à la maison. Le Paul du Nouveau Testament sait que les femmes se déplacent en public comme une chose normale. Dans le monde gréco-romain, ce n'était pas la société talibane. Les femmes n'étaient pas obligées de rester infiltrées. Nous avons Lydia, qui est une femme d'affaires dans Actes 16. Nous avons Euodia et Syntyche dans Philippiens 4. Elles étaient des collaboratrices de Paul. Il ne faisait pas seulement des sessions Zoom depuis un sous-sol quelque part, ni dehors, ni en public. Rien dans le Nouveau Testament ne suggère que Paul ou Jésus avaient l'intention de restreindre la présence publique des femmes ou leurs mouvements ou de les forcer à travailler à la maison. C'est ce que fait une femme chrétienne, elle doit simplement travailler à la maison. Or, il est vrai de dire que les instructions de Paul à titre reflètent l'idée sémitique et hellénique selon laquelle les femmes restent à la maison et s'acquittent des tâches domestiques. C'est ce que dit le lexique grec à propos de ce mot. Et c'est vrai. Mais il est herméneutiquement injustifié de faire valoir que cette définition signifie que les femmes ne doivent aller nulle part ailleurs et ne doivent rien faire d'autre. Paul appartient à une tradition où il existe un livre intitulé Proverbes. Dans Proverbe 31, vous avez cette noble épouse, et elle est socialement et commercialement active tout en surveillant les affaires de sa maison. C'est un idéal biblique. Paul, comme le NRSV le reconnaît, appelle simplement les femmes à être diligentes et à prêter toute leur attention à l'ordre des affaires domestiques, ce qui est une grande responsabilité également pour le bien du ministère parce qu'elles étaient des églises de maison, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Peut-être que l'église se réunissait dans sa maison. Peut-être que non, mais il était quand même important d'avoir une famille chrétienne afin que lorsque vous alliez à l'assemblée des familles chrétiennes, vous ne soyez pas une bande d'hypocrites. Vous viviez pour et avec le Seigneur dans votre maison, et votre mère en faisait partie. Ainsi, lorsque les mères et les enfants des maris se réunissaient, il s'agissait d'une sorte de transition cohérente et fluide. Le fait est que de nombreuses femmes trouvent que c'est l'une de leurs tendances et forces innées. Ils aiment gérer leur lieu de résidence. Ils aiment que ce soit d'une certaine manière. Ils aiment superviser cela, et le mari sage coopérera avec cela et aidera l'épouse ou la femme à l'aider à réaliser sa force et son appel ici. Les logements de nombreux hommes, et notamment des hommes célibataires, montrent qu'ils n'ont pas souvent les mêmes dons. Ils ne semblent pas capables d'ordonner leur espace de vie. Et l'Ancien et le Nouveau Testament ont critiqué la tendance opposée consistant à ne pas prêter attention à sa maison, mais à être un fou, comme l'appelle un commentateur. Lorsque Paul dit qu'il ruine des foyers entiers, cela pourrait inclure le fait de détourner les femmes des priorités nécessaires et nobles de la vie quotidienne. Les femmes plus âgées de Titus devaient être en première ligne pour contrecarrer cette subversion. Les femmes plus âgées devraient encourager les femmes plus jeunes à gérer leur foyer, à maintenir une présence chrétienne et, de toute autre manière, à donner leurs dons dans leur foyer afin que Dieu soit glorifié dans leur vie domestique. Eh bien, sur ce, nous avons beaucoup parlé du chapitre 2, et dans quelques minutes ou chaque fois que vous reviendrez à ces conférences, nous examinerons le chapitre 3 de Titus. Il s'agit du docteur Robert Yarbrough et de son enseignement sur les épîtres pastorales, l'instruction apostolique destinée aux dirigeants pastoraux et à leurs disciples. C'est la séance 13, titre 2.